Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit au micro Valérie, une working mom de deux ados franco-japonais qui habitent à New York. Elle nous raconte avec beaucoup de fraîcheur et honnêteté l'organisation un peu atypique de sa famille entre deux continents. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Val!
Hello!
Écoute, je te remercie de vouloir venir témoigner sur le podcast. Je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
Donc je suis Valérie, je suis maman de deux enfants qui sont biculturels, franco-japonais, Julie qui a 15 ans, Léo 14 ans. Je vis aux États-Unis depuis 2006. J'ai un doute là, deux secondes. Avant ça, j'ai vécu au Japon pendant 8 ans. Mon mari est japonais. Et avant ça, j'étais en Chine pendant 2 ans.
Ah oui, alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené à t'expatrier ?
J'ai fait une école de commerce et en fait, je faisais partie d'une association qui s'appelait l'ISEC. Je suis partie à Hong Kong dans le cadre de cette association et j'avais été assez attirée par l'Asie. Et à la fin de mes études, je me disais, oh là là, je vais peut-être pas commencer à bosser tout de suite, je vais voyager un petit peu. Et donc, je suis partie en Chine, à Dalian, qui est une petite ville de 4 millions d'habitants, dans le nord-est de la Chine, voilà. Et je suis partie donc pour un an, et en fait, je suis restée 2 ans, parce qu'au bout d'un an, je me suis dit, ah non, ça suffit pas, je reste encore un peu. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai vécu 2 ans en Chine.
T'as appris le mandarin du coup ou pas du tout ?
Tout à fait.
Et qu'est-ce qui t'a poussé après à partir au Japon ?
Quand j'étais en Chine, Dalian était assez proche du Japon. J'ai rencontré beaucoup d'amis japonais et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas aller au Japon ? Parce que le Japon était quand même un petit peu un point d'ancrage et un point, pour le business. Beaucoup d'entreprises avaient un headquarter, par exemple, à Tokyo pour gérer toute l'Asie. D'accord. Donc, je me suis dit, je vais au Japon, on va voir. Je suis partie avec mon sac à dos, j'ai un peu vécu chez l'un et chez l'autre. J'ai donné des cours d'anglais alors que j'étais française, mais bon, c'était assez rigolo. Et puis, j'ai eu une interview pour travailler à la chambre de commerce française, franco-japonaise de Tokyo.
Donc, du coup, attends, t'as appris donc, le français, l'anglais, mandarin et japonais ?
Et l'allemand, parce que je suis née dans les Vosges, tout près de l'Alsace. Et la première langue que tu apprenais quand tu allais au collège, c'était l'allemand. Donc, j'ai appris l'allemand, mais j'ai un peu oublié, en fait.
Tu pourrais être pape. Ça, c'est drôle.
Exactement.
Alors, comment t'en viens à rencontrer ton époux ?
Alors, c'était assez rigolo parce qu'en fait, la fille pour laquelle... j'ai pris le job d'une personne française quand j'ai commencé à la chambre de commerce.
D'accord.
Et en fait, c'était une amie de mon mari. Et quand elle a fait sa farewell party, en japonais on dit sayonara party, elle nous a tous invités. Donc je l'ai rencontrée et puis on ne s'est pas vus pendant 1 ou 2 ans. Et puis on s'est retrouvés encore une deuxième fois quand Laurence, puisque c'était la personne que j'avais remplacée, a décidé de rentrer définitivement en France. Elle a refait une fête. Et en fait, on s'est retrouvés là. Et en fait... c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Donc, il ne parlait pas français. Quand on s'est rencontrés, on parlait qu'en anglais. Puis un jour, on s'est dit, mais c'est complètement ridicule. Moi, je vivais au Japon, j'apprenais le japonais. Et puis, donc, on a décidé un peu de manière arbitraire de chacun parler dans notre langue. Et puis finalement, lui a fait beaucoup de progrès en français et moi, beaucoup de progrès en japonais. Et depuis ce jour-là, voilà, on pratique, voilà. Les trois langues, parce que même depuis qu'on est arrivé à New York, on parle aussi en anglais.
Mais alors, attends, ça veut dire que tu parlais en japonais et tu répondais en français ?
C'était un peu... Ça dépendait des circonstances, mais ouais, on mélangeait beaucoup, quoi.
Qu'est-ce qui vous fait venir aux États-Unis, alors ?
Mon mari était journaliste. Il travaillait pour un magazine, un journal, un quotidien qui s'appelle Nikkei, qui est l'équivalent du Wall Street Journal. Lui avait envie de voyager... depuis longtemps, parce que ses parents étaient diplomates, donc il a vécu à Washington DC, ils ont un peu voyagé quand même pas mal depuis longtemps, et donc lui, il se projetait quand même beaucoup, hors du Japon. Donc il avait demandé à plusieurs reprises, mais bon, il y avait des gens qui étaient prioritaires avant lui. Et puis il a utilisé ce qu'il appelle toujours la French excuse en disant, mais ma femme veut voyager. et puis donc un jour le truc est tombé en disant tu vas partir à New York.
D'accord.
Et donc, moi, je travaillais pour Sopexa au Japon.
Ok.
Et comme je savais qu'il y avait un bureau à New York, j'ai dit, bah écoute, peut-être je vais demander, why not. Donc, voilà, donc j'ai démissionné de mon poste à Tokyo. Et puis, il n'y a pas eu un transfert, en fait, officiel, parce que je n'étais pas expatriée. J'étais enceinte de mon deuxième enfant, et donc je suis partie à New York.
Mais attends, je ne savais pas. Tu l'as eu au Japon ?
Ouais.
Comment ça se passe, la grossesse au Japon versus la grossesse à New York ?
Ça a été assez difficile pour ma grossesse, en fait, au Japon. Quand tu es enceinte et que tu es dans le système japonais, tu n'as pas de péridurale, enfin, c'est un système quand même très naturel. Et en fait, moi, c'était mon premier enfant, mais je ne savais pas trop. Et puis, bon, je vivais quand même dans une communauté où j'avais beaucoup d'amis français qui m'ont dit, mais tu devrais essayer. Ouais. Docteur Sakamoto, qui était le médecin pour les femmes expats qui accouchaient toutes les Françaises. Donc, je me suis dit, bah, ouais, ok, je vais le voir. Donc, il m'a suivie. Et puis, finalement, en cours de grossesse, on s'est rendu compte que ma fille avait une malformation. Ils se sont dit, bah, la maternité dans laquelle ils voulaient que j'accouche, ils se sont dit, bah, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Donc, va à Red Cross Hospital, qui est un hôpital où il y a un service de néonatologie qui est un peu plus important. Et donc, qui m'ont envoyé en fait, sur cet hôpital complètement japonais. Et donc, j'ai mis plus de 40 heures pour accoucher de ma fille. C'était assez intéressant, en fait, l'accouchement au Japon, parce que bah, quand je suis arrivée, ils faisaient des massages, j'avais de l'aromathérapie avec des huiles essentielles, j'allais dans des bains d'eau chaude, dans des bains en pin. La maternité, après que j'ai accouché, je suis restée pendant 8 jours dans ma chambre. Dès que j'appelais une nurse, elle venait dans la minute. Il y a un terme japonais qui s'appelle Bonu Station, qui est en fait les lactation room. Toutes les femmes qui donnent le sein ne donnent pas le sein dans leur chambre. En fait, c'est assez intéressant. Même au milieu de la nuit, elles vont dans cette salle qui est réservée aux femmes qui donnent, qui allaitent.
Et
en fait, tout le monde apprend finalement avec les autres. Et donc ça, c'était vachement intéressant parce que bah, moi, j'avais des problèmes. Je parlais avec ma voisine de chambre qui m'expliquait ce qu'elle avait fait. Enfin, donc c'était assez intéressant.
Ouais, c'est vraiment pas bête.
Ouais,
et puis t'as plusieurs avis et t'as pas juste infirmière où elle te dit bah, je sais pas trop, je sais pas, mets-le comme ça, quoi.
Exactement. Et en fait, j'ai beaucoup appris en partageant avec les autres. Et en fait, c'était assez intéressant parce que c'est un mouvement assez collectif. Tu vois, on a tendance à penser que quand les femmes donnent le sein, elles le font toutes seules. Mais là, on était toutes ensemble, on donnait le sein ensemble, on se parlait pendant qu'on donnait le sein, on pouvait partager sur nos expériences. Et c'est vrai que finalement, allaiter, c'est tellement spécifique, c'est tellement personnel que
bah, c'est
très compliqué. une très bonne expérience pour moi, en tout cas.
Mais oui, ça a l'air génial. Je sais pas pourquoi ils font pas ça ailleurs. C'est super génial.
Ouais, c'est vrai. Et puis après, j'ai accouché à New York.
Ouais, ça a dû changer, je crois.
Oui, clairement, bah. J'étais programmée, je suis arrivée à 21h, on m'a dit dès que tu commences à sentir les contractions, tu nous dis, l'anesthésiste va venir. Il a eu la circoncision parce qu'on était à New York, mon mari a beaucoup poussé pour ça, même s'il est japonais. Là.
Mais oui, c'est dans la culture japonaise la circoncision ou pas du tout ?
Pas du tout, non, mais en fait mon mari trouvait que c'était... quelque chose important, donc voilà, et j'ai respecté en fait un peu son avis parce que je me disais je suis une femme, je sais pas trop, donc c'était assez intéressant de voir l'expérience d'accoucher au Japon et l'expérience d'accoucher à New York, où effectivement au Japon j'ai été pris en charge pendant, on va dire, entre le moment de l'accouchement, le moment où je suis rentrée à la maternité et le moment où je suis sortie, il s'est quasiment passé 10 jours. À New York, voilà, je suis arrivée le vendredi soir à 21h et dimanche à midi j'étais sortie.
Ouais. Alors attends, on va reprendre. Donc là, tu es au Japon et donc tu pars aux États-Unis en étant enceinte.
Oui, alors mon mari est parti en février parce que son job, lui, il ne pouvait pas m'attendre. Lui, il est parti en février. Donc moi, je me suis tapé le déménagement avec ma petite Juju et enceinte et finir mon job parce qu'en fait, j'avais quand même une obligation un peu morale parce que j'aimais beaucoup mon boss et j'aimais beaucoup mon job. Et ils m'ont dit, Ça serait bien si tu pouvais rester jusqu'à la fin du mois d'avril. Je suis arrivée à New York. Mon mari était dans un appartement temporaire. Il n'avait pas voulu choisir un appartement pour nous parce qu'il disait il faut que Valérie puisse valider l'endroit. Donc, quand je suis arrivée, Julie était toute petite et j'étais enceinte et je passais mes journées à aller de Upper... Enfin, j'habitais sur la 41e rue et 8th Avenue. Et donc, je passais ma journée avec ma poussette canne à aller... Upper East Side, Upper West Side, West Village. J'ai jamais autant marché de ma vie pour un peu découvrir les quartiers en me disant bah, où est-ce que j'aimerais bien vivre.
Mais attends, t'appréhendes pas de partir à l'autre bout du monde avec ta petite Julie, mm-hmm. avec un petit on the way?
Bah, c'est vrai que c'était... J'avais pas l'impression d'avoir appréhendé. Je pense que c'était assez exciting, on va dire.
Ouais.
Après 8 ans au Japon... Mon mari était super content de venir à New York. Pour être très honnête avec toi, au début, je me suis dit, oh là là, vivre à New York, je ne sais pas si j'y arriverai. Parce que finalement, après 8 ans au Japon, il y a une expression en fait entre les Français qui habitent au Japon qui tu te tatamises d'une certaine manière, donc tu es un peu japonais. Ça a été un peu dur au début parce que j'avais pas de enfin, je connaissais personne finalement ici.
Oui. Puis,
je me suis inscrite dans des groupes à droite à gauche avec des mamans françaises qui arrivaient, enfin voilà. Et puis voilà, tout doucement, je me suis un petit peu installée à New York tranquillement,
ouais.
Voilà. Et d'ailleurs, c'était assez rigolo parce qu'aujourd'hui, j'ai eu le renouvellement du bail de mon appartement dans lequel je suis toujours. J'ai dû visiter, je pense, 85 appartements dans Upper West Side une fois que j'étais fixée sur l'endroit où je voulais vivre. J'ai quand même fait vraiment le tour de la question. L'appart dans lequel je suis, c'était une famille américaine qui avait 3 enfants. Et en fait, quand je suis rentrée là, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé. Il y avait un peu comme une énergie, il y avait des enfants. Et tout de suite, je me suis projetée dedans. Oui. Et en fait, on n'a jamais quitté cet appartement. On a créé quelque chose pour nos enfants. Parce que pour oui. eux, leur maison, c'est New York, quoi.
Quand tu pars, quand tu fais la transition Japon-US, qu'est-ce qu'ils te disent au Pexan? Parce qu'ils savent que tu es enceinte. Quand tu pars, ça ne les dérange pas de te faire transférer?
C'était très open conversation. On s'est rencontrés. Moi, j'étais enceinte. J'avais aussi envie de prendre un petit peu de temps. Donc, j'ai dit, j'ai pas envie de commencer à retravailler en étant enceinte. Laissez-moi déjà accoucher. Puis, en plus, on verra. Et donc, ça a été super.
Time, ouais.
Exactement. Donc, ça a été super dans le sens où j'ai eu l'opportunité de prendre quasiment un an, pas tout à fait un an, mais histoire de m'installer, de se donner une deadline qui était... Léo avait 5 mois quand j'ai commencé à retravailler, en fait.
Oh, ça va. Oui, c'est très bien pour les États-Unis.
Mm.
Alors, tu arrives, tu donnes la vie à Léo. Ils sont quand même vachement rapprochés en âge. Ils ont un an d'écart.
16 mois d'écart. Donc, effectivement, j'ai eu 5 ans de ma vie où j'ai l'impression de changer les couches tout le temps. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu un blackout sur ma vie parce qu'en fait, j'aime la difficulté. Donc,
Ah oui, challenge. Hein.
Ah oui, non, mais clairement. Maintenant que j'y pense, je me dis, mais t'étais folle. Donc, les deux étaient extrêmement rapprochés. Je reprenais un nouveau job parce que finalement, même si j'étais dans la même boîte, travailler sur Sopexa aux États-Unis, c'est pas le même marché,
ouais.
C'est pas les mêmes problématiques.
C'est pas les mêmes équipes, ouais.
Voilà, voilà, tu vois, c'est complètement. T'as une culture d'entreprise différente, une culture du marché qui est différente. Donc, ça a été compliqué. Après coup, j'en parle souvent, je pense que j'ai fait une dépression nerveuse sans m'en rendre compte. Parce que c'est vrai que ça a été, je pense,
mais
les 3 ou 4 premières années de retravailler et tout ça, ça a
mais
été.
Je sais
difficile.
Pas comment t'as géré.
Ben, j'ai eu la chance de... En fait, j'ai pris le parti tout de suite de me dire il faut que je trouve une nounou qui puisse m'aider. Donc, on a eu en fait 2 nounous, Clémentine et Thérèse, qui venaient toutes les deux de Côte d'Ivoire parce que j'avais envie que mes enfants parlent français.
Oui, alors, j'allais en venir. Quelle langue vous aviez décidé d'instaurer à la maison? Tu leur parlais en français, ils leur parlaient en japonais et puis le reste de New York se chargerait de leur parler en anglais?
Ah, ça, c'est un peu le truc des bouquins qui te dit, effectivement, ouais. Il faut faire comme ça. On était parti sur des grandes théories
monologue.
De se dire, il faut que la maman parle dans sa propre langue, que le papa parle dans sa propre langue. Mais le papa, il a pas suivi. Parce que Hajime, il parle bien français. Et puis, il a ce côté un peu... Il aime le Japon, mais en même temps, il n'aime pas le Japon. Donc, il n'a jamais vraiment parlé avec eux en japonais. Donc,
D'accord.
c'est pour ça que je disais qu'on est vraiment une famille où on parle les trois langues, parce que finalement, on va dire, plus parler l'anglais et le français. Et puis, le japonais venait en troisième position.
Est-ce que tu as noté quand même des différences culturelles en éduquant tes deux enfants entre à la japonaise et à la française?
Oh oui, beaucoup. Je pense qu'en fait, ce qui est assez intéressant dans mon couple, c'est que mon mari est japonais, mais en même temps extrêmement, on va dire, ouvert d'esprit.
Oui.
Parce que c'est vrai que, bon, je pense qu'il y a plein de gens peut-être qui écoutent le podcast, qui ont lu Amélie Nothomb et qui disent, oh là là, les Japonais, machin, 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 machin. Je pense que Jimmy est quand même très ouvert d'esprit. Mais il a quand même toujours travaillé pour des entreprises japonaises. Et les entreprises japonaises, ça veut dire, ben, t'as pas d'heure. Lui, il était
Oui.
journaliste. Il avait, enfin, tu vois, il faisait, en japonais, on dit omawari. Il allait la nuit interviewer des gens. Parce que tu sais, c'est des quotidiens. Ça sort tous les jours. Donc, il faut qu'il soit là, genre, jusqu'à minuit le soir pour vérifier ses articles avant que ça sorte.
Non.
Donc, on n'avait pas de vie. Honnêtement, quand Julie est née, ça a été un peu. Ça a été un peu compliqué. Et d'ailleurs, ce qui était assez intéressant au Japon, parce que j'en ai pas parlé, c'est qu'en fait, au Japon, t'as pas ce système de nounou comme tu peux trouver en France, aux États-Unis. Les enfants vont à la crèche. Et le seul système de nounou que tu peux avoir, c'est pour les étrangers. Je mettais ma fille en fait dans une crèche le matin. Enfin, elle a eu 3 mois quand je l'ai remis à la crèche. Et à 3 heures l'après-midi, j'avais ma nounou philippine qui venait la chercher, qui rentrait à la maison, qui s'occupait d'elle. Et honnêtement, je pouvais pas compter sur mon mari. Il n'y avait pas d'équilibre. Enfin, gros, lui, il faisait sa vie, il faisait son truc, il se levait à midi. Enfin, tu vois, c'était complètement désorganisé. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas simple. C'était beaucoup sur moi, quoi. C'était pas facile.
Mais comment tu le vivais? Tu le savais, toi, étant donné qu'on sait que la culture japonaise est quand même très centrée sur le travail. Est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais quand même ou pas du tout?
Bah, peut-être inconsciemment, oui, mais en même temps, tu sais, tu vis un peu les choses quand elles viennent, quoi. Bah oui, tu t'imagines que ça va être comme ça. Et je pense que pour un homme aussi, devenir papa, c'est pas la même chose que pour une femme. Ils deviennent papa une fois que l'enfant est né, donc ça prend un petit peu de temps aussi pour intégrer les choses. Honnêtement, aujourd'hui, mon mari est quelqu'un qui est extrêmement proche de mes enfants. C'est quelqu'un qui est extrêmement paternel, qui, on va dire, reconduit absolument pas du tout les modèles de son éducation avec ses parents. Quand ils étaient petits, il était peut-être pas forcément là, mais plus les enfants ont grandi, plus il s'est quand même vachement investi avec eux. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc devenir un père, c'est pas aussi simple que de devenir une maman, parce que nous, on a eu quand même 9 mois pour le.
Mais oui, t'as vu le dernier stand-up de Seinfeld sur Netflix? Et il dit oui, bah écoute, elle pousse et puis elle donne la vie, et ça change sa vie, son corps change à un moment T, et toi tu la regardes et t'es toujours le même mec.
Oui.
Et il l'explique super bien, et c'est exactement ça. Le type reste le pauvre type qui est assis sur son tabouret à voir sa femme en train de donner la vie, quoi.
Je pense que c'est
ça.
assez traumatisant pour un homme, hein,
Ah,
honnêtement.
j'imagine. Je pense que c'est aussi traumatisant pour une nana, donc bon. Je veux dire, on va pas non plus tout défendre.
Exactement.
Donc, tu penses que l'absence au début était quand même quelque chose de culturel qui t'a le plus frappé?
En fait, on est un couple extrêmement indépendant. On a toujours eu une vie. On a toujours vachement respecté en fait nos styles de vie. Moi, j'ai toujours eu ma vie de femme professionnelle. Lui, il a toujours eu sa vie à lui. Tu vois, on n'est pas le genre de couple où on va faire nos courses ensemble. On est très indépendant. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était dur quand les enfants ont commencé à grandir, où j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup sur moi, tu vois.
Oui.
Mais on en a beaucoup parlé. On a fait aussi des family therapy, soyons honnêtes. Il y a des
Ouais,
choses que tu ne peux
ouais,
pas régler en couple. Et ben, c'est vachement important de demander de l'aide externe.
Mais alors, qu'est-ce que tu conseillerais quand même à. Parce que je pense que ça arrive à énormément de nanas. et on en parle maintenant, c'est le concept clé du 21e siècle qui s'appelle la charge mentale.
Ouais. Bah, la charge mentale est énorme. Moi, je le vis encore aujourd'hui, tu vois. Enfin, ouais. La charge mentale, c'est une vraie réalité. Ouais. C'est dur. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'en fait, il faut pas avoir peur d'en parler et il faut surtout pas avoir peur de demander de l'aide extérieure. Parce que ben, mon mari, il a changé de carrière, il voyage quasiment... Enfin, il n'est pas là 3 semaines, 4 semaines par mois. Enfin, c'est beaucoup. Enfin, oui. Voilà. Il faisait un changement de carrière tellement énorme qu'on s'est dit, bah, restons sur nos bases ici à New York et voyons comment les choses évoluent. Mais sur le papier, ça a l'air super sympa. Mais c'est vrai que dans la vie, moi, avec mon job, ce n'était pas toujours simple. Et je pense que c'est important de pas avoir peur de demander de l'aide, quoi. Je pense qu'on a, à un certain moment aussi... un peu divisé, on va dire, les responsabilités dans la famille. Ajime est quelqu'un qui est extrêmement impliqué, par exemple, dans l'éducation. Et en fait, à un moment, tu vois, j'ai un peu lâché le mou sur le dire, de me dire, OK, quelle école on va ? Enfin, on est à New York, on habite en Manhattan, les high school process, c'est compliqué, dans quelle école on va aller ? Enfin, je l'ai un peu laissé sur ce truc et je lui ai donné un peu le, tu vois. Ok, ça c'est ton truc, ouais. C'est toi qui gères. Donc en fait, on a un peu réparti les choses sur ça. Et puis, ce qui était assez intéressant aussi, c'est que comme il fait beaucoup d'allers-retours entre le Japon et les États-Unis, il a un peu sous-loué une chambre chez ses parents. Sa famille lui a mis un peu des barrières en disant, bah, ok, tu vis chez nous, t'as ta vie, c'est très bien, mais en même temps, t'es pas là pour mettre tes pieds sous la table et attendre qu'on te fasse à manger. Tu dois participer à la vie collective, de mettre tes trucs dans le dishwasher ou de, tu vois, de participer. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que je crois que ça l'a un peu réveillé sur la vie de famille en se disant, bah ouais, finalement, quand je suis à New York, Valérie, elle fait quand même un peu tout, la bouffe, les courses, machin, machin. Et donc, en fait, on a eu une conversation très sérieuse sur le fait que bah, moi, je pouvais pas tout faire. Parce que j'avais aussi besoin, moi, à un moment, d'avoir un moment pour moi, quoi. Où j'avais pas à me soucier de qu'est-ce qu'on allait manger ce soir ou que, tu vois, que les devoirs étaient faits. Enfin, je veux dire, moi, j'ai une vie
où... le rendez-vous chez le média, chez le dentiste, le matin.
Oui, ou tout le bazar, voilà. Et donc, je pense qu'en fait, ça l'a vachement...
Wake-up call.
Wake-up call, exactement, en disant, bah, ouais, ah, yes, I can get that, yes.
Alors, tu nous parlais que tu l'avais mis en charge de la responsabilité de trouver des high school pour les enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, parce que, par exemple, je ne comprends rien, à comment ça fonctionne le système éducatif aux États-Unis ? Donc, tu as le pré-K qui démarre à 5 ans ?
Alors, attends... pre-K. Alors moi j'ai pas mis ouais en fait alors moi j'ai mis mes enfants en pre-K dans une private pre-K dans mon immeuble.
Il y avait une t'as donc, tout dans ton ont... immeuble hein.
Ah non mais c'était la folie, il y avait le voilà machin
la crèche donc, la crèche la maternelle
le pre-K voilà. Après je les ai mis dans le système américain en elementary school où ils sont allés donc dans un programme bilingue. Donc en fait, à l'époque, donc c'est Julie qui a commencé ça. Donc, j'avais fait une. Cette école n'est pas dans ma zone directe. Donc, j'aurais dû la mettre dans une école qui était plus près de chez moi. Mais il y avait un système de loterie à l'époque. Donc, j'avais fait tous les papiers. Et donc, on a eu une place. Donc, c'était top. Et une fois que tu as un siblings qui est là, Léo a pu rentrer. Et ensuite, en middle school, il y a eu deux passages complètement différents. Léo est allé dans une middle school qui est genre à 2 blocs de chez nous, qui est une middle school américaine extrêmement progressive qui dépend de Fordham University. Pas du tout bilingue français, mais par contre, il a appris le latin. Ils ont des cours de latin de dingue. Et en plus, Léo parle en français. Il a été top parce que lui, il y avait plein de trucs, c'était très intuitif. Et Julie, elle est allée dans une middle school spécialisée dans la danse parce que Julie a toujours dansé depuis toute petite. Et donc, elle a été prise dans ce programme qui était à Union Square. Donc, les deux, en middle school, n'ont pas eu le programme bilingue. Et donc, pour Julie, on a fait les applications pour les high school. Et en fait, le programme des high school à New York est extrêmement compliqué. Il y a 80 000 enfants chaque année.
Ça a l'air tellement compétitif.
Ouais, c'est extrêmement compétitif. Mais en même
Et
temps,
les gamins, ils ont quand même 13 ans, c'est quand même... enfin, 13 ou
ouais.
14. C'est quand même beaucoup de pression pour un pauvre petit qui a 13-14 ans,
C'est
quoi.
extrêmement de pression, beaucoup, beaucoup de pression. Mais en fait, ils sont en train de vraiment changer le système à New York pour arriver, enfin, en fait, changer ce système où tu as un peu une émergence des super écoles private school où tout le monde veut aller.
Oui.
Donc, tu entends parler de Beacon, après, tu as toutes les specialized high school dans lesquelles tu ne rentres que si tu as fait 635 sur les tests, les special, ils appellent ça le Shazat.
Oui, qui passe à
Specialty,
la fin
voilà.
du mid-school, ouais.
Voilà, c'est ça. Et puis après, tu as les autres écoles sur lesquelles tu fais un ranking. Tu es censé choisir 12 écoles dans lesquelles tu fais un ranking. Et en fait, tu es un peu dans un algorithme à la Facebook, comme je dis toujours. C'est qu'en fait, tu fais un ranking des écoles que tu aimes. Et puis les écoles, donc tu déposes des dossiers, les écoles font la même chose de ton côté. Ensuite, il y a un matching informatique qui se passe. Et effectivement, si tu merdes un peu dans le truc, désolé, j'ai dit un gros mot, dans le truc au départ, ben ça marche pas. Et donc pour ma fille Julie, ça a été compliqué parce qu'en fait, on n'a pas bien géré. Moi, j'avais pas bien géré. Ajimé n'a pas compris aussi. Je pense qu'on a mis des écoles dans le top de la liste qui n'étaient pas des écoles atteignables. Je pense qu'il faut être complètement réaliste sur le fait qu'il faut que tu mettes des écoles qui soient.
Mais t'entends quoi par atteignable?
Bah, il y a des critères, en fait. Il faut que tu regardes. Tu as un catalogue de la redoute,
Mais
honnêtement.
t'es sérieuse?
Non,
Mais
je te
quels sont
jure.
genre les critères?
Oh, des millions de critères. C'est lourd. Il faut que tu ailles
Si elle a
visiter
pas fait
les
de
écoles.
sport, si elle a mâché.
Oh non,
Ah,
c'est
ok,
même
des
pas
trucs
ça.
comme ça.
C'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Quelle est ta moyenne sur l'année? Enfin, tu vois, tes tests, tes state test results. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a certaines écoles qui te demandent d'écrire des essais. Il y a certaines écoles qui te demandent de
Oui.
fournir des portfolios. Enfin, c'est en gros, on
Ils ont quand
dit
même 13-14 ans, les petits, hein.
exactement. Et
Enfin...
on dit quand tu as réussi à faire le high school process à New York, tu peux faire ton college application finger in the nose. Ma fille, pour le coup, bah, on n'a pas réussi à avoir ce qu'on voulait, donc elle est partie dans le privé, programme complètement franco-américain. En fait, elle
D'accord.
rentre au lycée français à la rentrée, donc c'est un peu un
OK.
sacrifice que nous on a fait. Et Léo, lui, pour le coup, a réussi parce que ils ont un an d'écart, donc on a
Oui.
refait le high school et on a beaucoup,
Bah, t'étais briefé là, du coup.
exactement, on a appris de nos erreurs. Et Léo, lui, rentre à LaGuardia High School. En
D'accord.
Theater Tech, qui est un programme pour tout ce qui est toute la technologie autour des Broadway shows. Enfin, c'est quelqu'un Léo est très créatif, mais en même temps extrêmement curieux. Enfin, tu vois, qui veut apprendre énormément de choses. Il veut être docteur. Enfin, bref. Ouais. Mais voilà. Donc, il rentre dans le programme américain. Et je pense qu'en fait, c'est vachement important de prendre en compte un peu la sensibilité de chacun des enfants, parce que t'as beau être dans un couple biculturel, Julie, par exemple, elle est extrêmement beaucoup plus, enfin, elle est beaucoup plus française que Léo peut l'être.
Ouais.
Julie, elle a envie de vivre en France, elle a envie d'apprendre le français. Enfin, tu vois, c'est assez intéressant finalement d'avoir des parents et une éducation similaire, mais de se rendre compte que tes enfants ont des besoins différents. Donc, on en a beaucoup écouté ça et c'est pour ça qu'on a un peu shifté sur le programme bilingue et le lycée français.
Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des... C'est pas parce que le programme est bilingue qu'il est nécessairement meilleur qu'un programme américain lambda?
Je pense qu'en fait, ce qui est vachement important quand tu es une famille biculturelle, c'est de se dire, bah, donnons-nous un peu les moyens à côté de pouvoir accompagner nos enfants peut-être sur le français si tu veux leur donner des cours de français. L'été, ils allaient chez mes parents pendant 1 ou 2 mois et je les mettais au
Trop
centre
bien.
aéré. Voilà,
Ouais.
tu vois. Et en fait, ils ont vachement appris le français comme ça. Tu peux avoir un retard au début quand ils sont petits, quand ils sont entourés tu vois, de personnes qui parlent des langues différentes. Mais
Oui.
honnêtement, ça s'efface super rapidement après. Et c'est assez rigolo parce que j'ai beaucoup parlé avec les profs de Léo, par exemple, en middle school, qui me disaient tous que bah, les enfants qui ont été élevés dans un milieu bilingue ou trilingue, en fait, sont des enfants qui développent en fait un certain nombre de capabilities ou des capacités complètement différentes. Donc, je dirais ne pas se... En fait, de ne pas s'effrayer Si effectivement les enfants parfois sont un peu lents, je sais que Léo était un peu lent au début, mais honnêtement, ça se
Ça se
rattrape
rattrape.
super appel après.
Ok. Donc il faut se faire force. Tu conseilles vraiment de se faire force,
Ah
quoi.
ouais, clairement.
Écoute, j'aimerais bien qu'on parle un peu de après Valérie la super mom, Valérie la super walking mom. Parce que j'aimerais bien que tu nous expliques un peu le contexte là que tu vis à New York. Tu l'as décrit rapidement où en fait tu expliques que ton mari est souvent absent. Il vit au Japon et que tu gères les petits en même temps que ta carrière. Et t'es quand même, enfin, je veux dire, t'as quand même des responsabilités assez élevées. Good for you. Comment t'arrives à gérer?
Je pense qu'aujourd'hui c'est plus facile parce que j'ai quand même des teenagers et tu vois, ils ont 14 et 15 ans, c'est pas non plus des enfants sur lesquels je dois être derrière eux et que je pense qu'en fait c'est des enfants qui sont assez responsables. Tu vois, Léo, par exemple, s'est un peu pris au jeu sur faire le dîner. Donc, j'ai quand même beaucoup de chance sur le fait que mes enfants sont aujourd'hui quand même très impliqués dans la vie
À la maison,
à la
ouais.
maison. Quand ils étaient beaucoup plus petits.
Oui, quand par exemple l'école a fini à 3 heures aux États-Unis, ce qui est totalement ridicule, parce que qui peut finir le bureau à 3 heures?
Eh ben, donc ça, c'est un point vachement important, c'est que tu vois, par exemple, au début. Quand j'ai commencé même à travailler chez Sodexa, je mettais 100% de mon salaire sur ma nounou. Enfin, je faisais pas d'économie, tu vois. Enfin, pour moi, quelque part, j'aurais pu ne pas travailler, mais j'ai pris le parti pris de me dire, ok, bah c'est pas grave, je bosse. Je vais être très honnête, hein, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Il y avait des moments où je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, voilà. Donc j'ai pris
Ouais.
beaucoup sur moi. Quelque part, j'ai un peu sacrifié parce que j'avais envie de travailler, j'avais envie de continuer ma carrière, j'avais envie d'avancer, de faire des choses nouvelles. Et ça a pris du temps, quoi.
C'est une question parce que on le sait, c'est un cliché, mais c'est la réalité. En général, aux États-Unis, à partir du moment où tu as un deuxième enfant, il y a un des parents qui doit malheureusement quitter son emploi et en général, c'est la femme qui s'y colle.
Ouais.
Est-ce que toi, tu trouvais que ton travail, c'était quelque chose qui te passionnait et qui est la raison pour laquelle tu as voulu faire ce sacrifice pécunier et de temps, je dirais? Comment tu as voulu, enfin, quel a été ton choix à te dire, bon, bah, je préfère continuer de travailler plutôt que, bah, je préfère, non, je préfère en fait utiliser mon argent pour autre
Ça a
chose?
été un peu une priorité, on va dire, personnelle de me dire, tu vois, mes parents, c'est des entrepreneurs, j'ai toujours vu mes parents travailler. Tu vois, j'avais un peu ce côté de me dire, je me vois pas ne pas bosser, quoi. Et je pense que j'ai quand même eu la chance, même si parfois c'était un peu compliqué, d'avoir un mari qui a toujours été un peu derrière moi, dans le sens où il me disait, bah, tu fais ce que tu as envie, quoi. Tu vois, il a
Oui.
jamais été là à me dire, non, tu bosses pas, parce qu'il faut que tu t'occupes des enfants. Je pense que je manque des trucs à côté parce que je passe beaucoup de temps, effectivement, entre mon job et ma famille, mais en même temps, je me suis donné un peu des rules et tu sais, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même parce que j'ai toujours été quelqu'un qui donnait énormément, énormément, énormément. Mais à un moment, je me suis dit, il faut aussi que je trouve un peu un équilibre. Et par exemple, maintenant que mes enfants sont un peu plus grands, tu vois, j'aurais tendance à me dire, bah, ils peuvent dîner tout seuls, ils peuvent se débrouiller. Ben non, j'essaye d'être là pour 19h, pour qu'on puisse dîner ensemble, qu'on ait au moins ce moment dans la journée où on se dit, bon, on a au moins 1 heure ensemble. Et je reprends après mes emails plus tard. Et tu vois, j'essaye d'organiser un peu ma vie comme ça. C'est vrai que ça n'a pas toujours été super balance dans le sens où je crois que j'ai quand même un peu investi beaucoup de temps pour mon job et peut-être un peu moins sur ma famille. Mais c'est vrai que c'est un peu un choix. Je crois que c'est un peu you feeling your guts.
Ouais.
C'est un peu un choix personnel de se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je suis prête à faire ce sacrifice? Moi, personnellement, je me disais, quand ma fille avait 3 mois, je me disais, elle avait juste envie de manger, qu'on lui change la couche et qu'on fasse des choses comme ça. Je me disais, quelle est ma valeur ajoutée finalement sur ça? Certes, le côté maternel est important quand tu donnes le sein et tout ça, mais tu vois, j'ai jamais eu ce sentiment de me dire, oh là là, elle a tellement besoin de moi maintenant, là. Et je me disais, elle aura besoin de moi plus tard. Et en fait, J'ai recommencé, tu vois, quand Julie avait 3 mois, j'ai commencé à rebosser. Quand Léo avait 5 mois, j'ai commencé à bosser. Et je me disais, je pensais beaucoup plus, tu vois, à me dire, quand ils seront plus grands, tu vois, tu as besoin d'engager des conversations, tu as besoin de parler plus.
Oui.
Et j'ai toujours pensé, j'ai toujours été un peu convaincue. Et ce qui n'était pas le cas, par exemple, de plein de mes copines, hein, qui me disaient, oh non, non, mais moi, je prends 1 an, 2 ans d'année sable, tu vois, je vais pas bosser, je vais m'occuper de mon nouveau-né. Et moi, je me disais, mais je comprends pas parce que moi, pour moi, ce sera après. Et quelque part, ben aujourd'hui, j'essaye, tu vois, d'organiser ma vie pour passer un peu plus de temps avec eux. Mais c'est un choix perso, tu vois. Je crois que c'est un peu
Oui.
difficile de donner des conseils à chacun parce que je crois qu'en fait, on a chacun un peu une
C'est
manière de
subjectif,
voir. C'est un
ouais.
peu subjectif. Je crois qu'il faut le faire en fonction de ce qu'on ressent, en fait. Ouais.
Et comment tu penses que eux le sentent, le fait que tu travailles beaucoup, que leur père est à l'autre bout du monde, comment tu penses que eux le perçoivent?
Bah, en fait, je pense qu'ils sont très contents et ils sont quand même assez fiers. Parce que, tu vois, j'ai souvent des conversations avec eux où ils me demandent, mais qu'est-ce que tu fais? Et quelque part, ils se disent, oh, ah ouais, attends, c'est top, maman, elle fait ça. Enfin, tu vois, elle est
Ouais.
impliquée. Et puis, en même temps, moi, je suis un peu une maman poule. Enfin, tu vois, je fais super attention à mes enfants. Je veux m'assurer qu'ils mangent quand même des légumes verts. Tu vois, quelque part, je suis, tu vois, un peu le freak out mom. Pas l'hélicoptère mom, mais je suis quand même, tu vois, je suis concerned, quoi. J'ai besoin de me. Voilà. Donc, dans l'ensemble, c'est aussi valorisant quand tes enfants se disent, oh, bah, j'aime ce que maman fait, je suis assez fière de ce qu'elle
Ouais.
fait. Enfin, tu vois.
Et puis on sent aussi que tu adores ton travail. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement valorisant quand tu vois que la nana, elle se donne à fond pour... On sent en tout cas que tu aimes ce que tu fais. Et
Ouais.
c'est extrêmement valorisant. Donc j'imagine même pas pour tes enfants. Comment tu penses que ton mari vit, lui, le fait d'être très loin de sa famille?
Bah, je pense qu'au début, il s'est dit, oh, mais ça va être facile et tout. Mais en fait, je crois que deep inside, c'est dur pour lui. Je crois qu'il se sent un peu responsable quand même de l'éducation de ses enfants. On a une manière extrêmement, c'est assez rigolo parce qu'en fait, on a une manière quand même assez différente et tu vois, de gérer l'éducation de nos enfants. Moi, je suis quand même, je suis un peu comme ma mère finalement. J'écoute beaucoup mes enfants, je suis assez dans l'empathie, je laisse passer pas mal de trucs. Enfin, tu vois, je pense que lui est parfois un peu plus strict.
Ouais.
Et puis, je crois que quelque part, j'ai un peu accepté, moi, en tout cas de mon côté, de me dire, bah, tu sais, moi, je suis pas une famille normale. Nous, on est une famille, on habite à New York, c'est un peu notre point d'ancrage en tant que famille. C'est là où on a toujours
Oui.
vécu. Léo, il a toujours vécu dans cet appartement, il est né ici, enfin, tu vois. Mais en même temps, on est une famille où on a des racines en France, des racines au Japon et que c'est vachement important. Et donc, en fait, j'essaye, tu vois, de donner un peu à mes enfants cette opportunité de découvrir tout et qu'ils puissent par eux-mêmes découvrir qui ils sont vraiment. Parce que quand tu es, ben, toi, c'est pareil avec Pierre. Enfin, quand tu es biculturel, tu n'es jamais vraiment américain, tu n'es jamais vraiment français. Alors, mes enfants, c'est même
Ouais.
encore pire parce qu'ils sont. Des fois, je leur demande, mais tu te sens quoi? Alors, Julie, elle dit toujours qu'elle est très française, mais je pense que quand même, quand tu la compares avec une enfant française de son âge, elle n'est pas complètement française parce qu'elle a quand même cette culture américaine.
Mais je sais pas, je pense qu'en après ça encore une fois c'est de la subjectivité parentale, mais moi je sais que j'en parle avec des copines qui disent oui, c'est mon enfant, c'est moi qui l'ai créé, c'est mon machin. Et j'ai pas du tout cet aspect à me dire c'est ma propriété. Pour moi, c'est certes, je l'ai sorti de mon corps, mais c'est un être humain à part et je vais simplement essayer de le guider du mieux que je peux dans la vie, à pas être quelqu'un que j'ai pas envie qu'il devienne. Enfin,
Non, mais
à être quelqu'un,
je suis
tu
complètement
vois, à
d'accord avec
vraiment.
toi, ouais.
À accompagner cet être humain que, oui, certes, on a mis au monde, mais de l'accompagner dans la vie, de le guider, mais pas nécessairement de me dire, t'es à moi, tu vas faire ça parce que tu m'appartiens. Et je trouve que c'est quand même. Est-ce que ça vient de la culture, parce qu'on est engrainé et qu'on sent pas qu'on fasse partie d'une nationalité en particulier? Je sais pas, mais.
Je pense qu'en fait, ce qui est difficile parfois, c'est que inconsciemment, en tant que parents, on veut que nos enfants fassent des choses que nous, on n'a pas pu faire. Et tu vois, par exemple, la family therapy qu'on a fait avec Julie, avec Hajime et tout ça, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur ça. De se dire, il faut pas, tu sais, les non-dits ou les choses que, toi, t'aurais vécu comme enfant quand t'étais enfant, que t'as pas envie que ton enfant recrée ou que ça, il faut pas aller forcément les reprojeter sur tes enfants. Et je pense qu'en fait, ce qui est aussi assez hallucinant, moi je le vois, c'est que tu vois, j'ai deux enfants, enfin je veux dire, je suis leur mère, mon mari est leur père, et j'ai accouché d'enfants qui sont complètement différents. Et ça prend un peu de temps parce qu'il faut arriver à, jusqu'à l'âge de 13 ans, tu vois, pour qu'on, moi je trouve, comprendre et un peu grasp, tu vois, la personnalité de tes enfants et d'aller dans ce sens que tu dis de, ok, son point fort, quelles sont les choses sur lesquelles, tu vois, tu peux les soutenir. Parce que finalement, on le sait, on a des millions d'exemples autour de nous, de familles, où les parents décident pour les enfants, mais finalement, il arrive un moment, les enfants, quand ils sont dans un petit âge, ils vont faire sous l'autorité parentale ce que tu leur demandes de faire, mais arrive un moment, ils vont dire, non mais attends, lâche-moi les baskets, c'est pas ça que je veux faire.
Oui.
Et je pense qu'en fait, il faut arriver, comme tu le dis, à soutenir et se dire, ok, qu'est-ce que j'ai compris du potentiel de mon enfant? Comment je peux l'accompagner? Tu vois, mais c'est pas facile, mais je crois que c'est un
non,
peu
non, et c'est se faire force tous les jours, hein, je le pense. Hein. Quel conseil tu aurais à donner à des parents comme toi qui adorent leur métier et qui doivent gérer leurs enfants ou alors à quelqu'un qui doit suivre son conjoint-conjointe alors qu'ils n'ont pas envie de mettre de côté leur carrière?
C'est pas simple parce que bah, parfois, il y a des carrières qui ne sont pas transférables. Ce qui est vachement important pour une maman qui serait amenée à voyager ou à s'installer sur un pays dans lequel elle est pas forcément, enfin, elle est un peu obligée de venir parce que son mari est expatrié, c'est de se dire, bah, déjà, n'aggravons pas la situation en se disant, oh là là, non mais attends, moi, j'avais pas voulu venir ici, je vais pas m'en sortir. Tu vois, quand je suis arrivée à New York ici, bah, finalement, j'ai un peu connecté à droite à gauche avec des mamans qui travaillaient, d'autres qui travaillaient pas. Bah, de se donner un peu la chance de découvrir un petit peu qui sont les gens avec qui on peut connecter et puis peut-être se créer un projet sur un projet soi-même. Il n'y a pas besoin de se dire je vais créer une entreprise qui va être listée en bourse. Enfin, tu vois, ça peut être un projet qui permet de continuer à s'occuper de son enfant et puis de quelque part fulfill un peu un besoin on va dire personnel de je comprends hein, c'est difficile parfois on a l'impression de perdre un peu la reconnaissance parce que finalement tout est axé autour du papa qui a le job et qui est l'expat mais je pense que chaque femme a un savoir-faire ou une compétence qu'elle peut mettre au service d'une association ou d'une boîte, même en freelance. Enfin, moi, tu vois, j'en ai connu plein, hein, des mamans qui étaient comme ça. Et, je pense que ça dépend aussi un peu de la personnalité. Si tu as vraiment la niaque de dire, moi, je veux devenir, patronne d'une boîte, bon, bah, voilà, bah, c'est ça là. Après, il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas cette ambition-là, mais en même temps, il n'y a pas de jugement, quoi. Chacun doit faire ce qu'il ressent qui est bien pour lui, quoi.
Peut-être parler à son conjoint-conjointe si vraiment si tu te sens qu'il y a un problème, que tu te sens vachement isolé à vivre à Pétaouche.
Bien sûr, mais j'en ai connu plein des exemples de couples où ça n'a pas fonctionné. Ne nous voilons pas la face. Je veux dire, c'est parfois compliqué. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'exemples dans lesquels on a vu que je pense qu'il y a toujours un moyen de se trouver une passion, une vocation à côté, quoi. Et honnêtement, alors on n'a pas parlé de l'argent, mais je pense que l'argent est toujours un peu au milieu de la conversation parce que parfois ils disent « ouais, mais moi, j'ai pas les moyens de ». Mais en même temps, tu vois, quand j'ai commencé à bosser, je te dis, moi, je mettais 100% de mon salaire sur la nounou. J'ai été pendant plusieurs années où, quelque part, c'était un peu un investissement. Bah après, il faut un peu gérer sa finance personnelle et se dire, bah, ok, est-ce que j'ai envie d'investir un peu sur ça
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir en dehors de adieu Covid? Maintenant que tu as réussi le high school process, oh, oui. deux fois.
En fait, un truc qui me, tu vois, deep inside of me, c'est que je me dis toujours, ok, là, ils sont en high school, je continue à travailler jusqu'à ce que, tu vois, ils sont en high school. Et ouais. Puis, une fois qu'ils iront au collège, j'aimerais peut-être, tu vois, avoir mon propre projet d'entreprise et de faire un truc, peut-être un truc à moi, tu vois. J'aime beaucoup, tu vois, en dehors du boulot et de ma vie de maman, je fais du yoga, je cours, je nage, j'aime beaucoup le wellness. Et d'ailleurs, ouais. C'est un truc dont on n'a pas vraiment parlé, mais tu vois, en 2012, j'ai dit, il faut que je fasse ce que je... I take care of myself. Quand on est maman, qu'on bosse, qu'on a un truc, il arrive un moment où, tu vois, on se met toujours de côté, on se dit, non, mais attends, d'abord, c'est mes enfants, c'est la famille, machin, le boulot. Mm-hmm. Mais il arrive un moment, il faut faire attention à soi. Et, tu vois, j'aimerais bien aussi développer un projet sur le... Alors, ça fait un peu cliché parce que j'ai l'impression qu'il y a des millions de projets sur le well-being et sur le truc. Mais en même temps, c'est important de... Tu vois,
oui.
De prendre du temps pour s'occuper de soi.
Mais oui, alors, parce que ça, je pense que ça va être une parfaite question pour clôturer la conversation, c'est comment tu arrives à trouver du temps pour aller faire un triathlon, pour aller faire un marathon, pour aller faire du yoga.
Mais c'est pas comment je trouve le temps, c'est moi qui me l'impose.
D'accord, c'est un très très bon conseil.
Parce que tu pourras toujours trouver une excuse de dire... j'ai pas d'argent, donc je fais pas d'enfant. Je fais pas de sport parce que j'ai pas de temps. Mais en même temps, tu vois, là, ce soir, je suis allée courir 30 minutes et j'avais pas envie d'y aller. Et je me suis dit, non, mais vas-y, parce que je sais que quand tu reviendras, tu seras bien. Et il faut se donner un petit coup de pied au derrière et de se dire, ok, si t'as vraiment envie de faire des choses, tu vois, j'ai fait des sacrifices, hein, je suis partie... En yoga retreat pendant 8 jours toute seule. C'était dur parce que j'avais pas envie de laisser ma famille, mais en même temps je me suis dit, attends, je vais le faire, c'est important pour moi, et j'en suis ressortie tellement revivifiée. Ou enfin tu vois, il y a un truc,
faut se faire du bien avant de faire du bien aux autres, entre guillemets.
Mais si t'es pas bien toi-même dans ta peau, tu peux pas être bien avec tes enfants ou avec ta famille, c'est sûr.
Bah écoute, je te remercie énormément pour ton témoignage. Je trouve frais et inspirant. Et j'espère vraiment que ça va pouvoir aider beaucoup de familles qui... Enfin, je dirais plus pour déculpabiliser des familles qui se disent, mince, on n'a pas le portrait de la famille lambda qui vit sous le même foyer. Et de dire que chacun a son équation et qu'elle fonctionne... pas nécessairement pour tout le monde, mais elle fonctionne pour des familles.
Exact. Je crois que c'est un point vachement important. C'est qu'en fait, c'est vrai qu'on est dans une société où les social media sont forts et que tu regardes toujours ce que les autres font. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'accepter sa différence et de, quelque part, se dire ce que je fais, je suis persuadée que ce que je fais, finalement, c'est bien et que je me sens bien dans mes baskets. Et d'accepter de peut-être pas faire comme tout le monde, quoi. Mais c'est pas facile, hein. Je pense que la pression sociale est forte, mais en même temps, moi, je crois beaucoup, tu vois, dans l'histoire des chakras et on parle du guts. Je pense que c'est vachement important de faire les choses comme on les ressent. Mm-hmm. Et c'est ça qui te fait avancer, en fait.
Follow your gut. Mais ça fonctionne pas comme expression en français.
On dit suis ton instinct.
Suis ton instinct, mais pas ton intestin.
Pas ton intestin, c'est tout exactement.
C'est étonnant. Non, écoute, je te remercie et puis je te souhaite une excellente fin de journée.
Ouais, toi aussi.
Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!